Michel Cordet, Monsieur, Madame et Loto. Nocturne. Dufresne roulait dans la nuit, une nuit de printemps, opaque et froide. Parti de Paris au matin, il avait couvert 300 km en circuit dans sa journée pour essayer sa nouvelle voiture, un phaéton de famille, ample et profond. Il projetait de remiser son auto et d'achever la nuit dans sa villa de Jolène, près de Fontainebleau, où lui et les siens passaient l'été. Aussi bien, l'étape serait la bienvenue, car Dufresne était exténué et ses phares baissés, faute d'acétylène. À Morée, l'un d'eux s'éteignit. À Marlotte, son compagnon l'imita. Heureusement, la route était familière à Dufresne. Bientôt, il reconnut Jolène. Ses yeux, s'accoutumant à l'ombre, discernaient sa maison à l'orée du village. Il ralentit. Et tout à coup, il sursauta. Ses fenêtres étaient éclairées. Pourtant, il savait sa propriété déserte à cette époque de l'année. Les siens, fixés encore à Paris, ignorant de son projet, n'avaient pas pu le précéder à Jolène. Un cambriolage, alors ? Il y avait des chances. Que faire ? Prévenir le garde champêtre ou ramener les gendarmes du bourg voisin ? Et s'il se trompait ? S'il les dérangeait pour rien ? Si le jardinier, par exemple, bien qu'il n'habitât pas la maison, s'y était installé ? Entrer brusquement, risquer de surprendre les bandits ? Mais il en ignorait le nombre. Il n'était pas armé. Ses plans, ses hypothèses, s'étaient déroulés instantanément dans son esprit. Il arrivait devant sa villa, dont la façade donnait sur la rue. D'instinct, il stoppa, et il hésitait, le cœur lourd et battant. Mais presque aussitôt, la porte s'entr'ouvrit, puis s'ouvrit toute grande. Sur le vestibule éclairé, un homme énorme se détacha. Il était coiffé d'une casquette cycliste et vêtu d'une cotte et d'un bourgeron. Il dit d'une voix basse, inquiète et rageuse, « Eh bien vrai, c'est pas trop tôt !» Puis, se tournant vers l'intérieur, « Allez, vous autres, emballez vite !» D'abord, abasourdi, Dufresne comprit soudain. Les cambrioleurs avaient leur voiture. Leur ballot prêt, ils déménageraient aux grandes allures. Une auto volée, sans doute. Ils l'attendaient, amenée par un complice. Et l'ombre opaque, ce phaéton aux phares éteints, qui s'arrêtait juste devant la maison, cette vague silhouette emmitouflée de chauffeurs solitaires, tout expliquait leur méprise. Une seconde, Dufresne balança. Allait-il détruire ou prolonger leur erreur? Diable, se démasquer était dangereux. Et vraiment, c'était comique et tentant pour un propriétaire d'aider à son cambriolage, de charger sur sa voiture les objets qu'on croyait lui dérober et de les mettre hors d'atteinte en un tour de manivelle. Mais si la voiture de ces messieurs arrivait au rendez-vous, s'ils s'apercevaient en cours d'opération de la supercherie, c'était une chance à courir. D'ailleurs, il n'eut pas le loisir de réfléchir plus longtemps ni plus loin. Deux acolytes chargés de paquets apparaissaient dans le vestibule. L'un d'eux, un gamin de 15 ans, pâle, exigu, tendit à Dufresne un lourd objet enveloppé d'un linge. Et d'une voix de tête, « Tiens, mon bijou, cale-le toi-même, c'est du marbre !» Dufresne devina à travers l'étoffe une bacchante qui ornait la cheminée du salon. L'autre complice, un homme vieillissant, creux et long, qui toussait presque sans arrêt, lui mit aux mains, sans souffler mot, un second poids, lourd, également voilé. Dufresne reconnut l'arlequin de Saint-Marceau, un cadeau de noces. Le gros homme qui s'était éclipsé reparut. « L'argenterie dans le coffre !» ordonna-t-il. Dufresne eut le sourire intérieur. Il n'emportait que du ruoles à la campagne. Puis le gamin jeta tout un lot de vêtements masculins dans la voiture. Un homme bien habillé en vaut deux, déclara-t-il de sa voix pointue. Les rangeant, Dufresne découvrit avec joie un veston de flanelle blanche qu'il cherchait vainement depuis 2 ans. Sacrebleu, avait-il assez bouleversé les armoires sans le trouver? Il bénit l'aventure. L'individu à la toux surgit, deux pendules sous les bras, des tableaux dans les mains. Il restait muet. Heureusement, car Dufresne appréhendait toujours une question directe qui l'eût forcé de répondre et de se trahir par la voix. Le colosse lui tendait un énorme carton à chapeau. « Des bricoles, » dit-il. Dufresne entr'ouvrit. Le bandit en parlait à son aise. Il avait raflé là-dedans les bibelots d'art qui garnissaient les tables, les étagères, les cheminées, le bureau. Ah, ces cartons à chapeau de femme, si amples qu'ils peuvent contenir toute la richesse d'une maison. Le gamin, traînant un panier à bouteilles plus lourd que lui, déclara « L'alcool est un aliment !» Il avait choisi, l'astucieux microbe, les meilleures fioles de la cave. Dufresne reconnut certains fins bois qu'on réservait aux bons amis. 6 bouteilles seulement ? Sapristi ! La provision baissée, il faudrait aviser bientôt à la renouveler. Décidément, un cambriolage de temps en temps n'est pas inutile à titre d'inventaire. Puis, ce fut le tour de l'homme qui toussait. Des casseroles de cuivre, des armes de panoplie s'entrechoquaient au bout de ses bras avec un bruit guerrier. Le gnome, qui disparaissait littéralement sous une gerbe de vêtements de femme, s'écria de sa voix acide « N'oublions pas les dames !» Il ployait sous les peignoirs, les écharpes, les colliers, les lingeries brodées, les dentelles. Dufresne fut tenté de protester au moment d'embarquer ce stock. Il éprouvait la même inquiétude indignée, la même envie de s'insurger qu'à chaque départ en excursion lorsqu'apparaissait la malle énorme de sa femme. Mais le géant l'interrogeait. « Qu'est-ce que ça peut bien être que cet outil-là » Il tenait dans sa paume énorme un baromètre anéroïde, orgueil et tendresse de Dufresne. « Est-ce une montre? Une pendule? Tu dois savoir, toi qui es dans la mécanique. Ça marche pas. » Il prêtait l'oreille, puis il secouait à deux mains de toutes ses forces le délicat instrument. Dufresne, qui ne l'excitait jamais que d'un doigt circonspect, eut un élan paternel et manqua de se trahir. Sans répondre, il arracha le cher baromètre au gros doigt du colosse. Heureusement, le temps pressait. Déjà l'homme, sans s'attarder au geste, rentrait dans la maison. Mais Dufresne avait perdu toute assurance. Il suffisait d'un nouveau mouvement impulsif pour le découvrir et le perdre. À la pensée de la vengeance que les cambriolaires dupés tireraient de lui, il frissonna. D'ailleurs, le déménagement s'achevait. L'auto attendu pouvait devait arriver d'un moment à l'autre. La fuite s'imposait, immédiate. Dufresne, profitant de l'absence simultanée des 3 hommes, se coula jusqu'à sa manivelle. Il s'agissait, aussitôt après la mise en marche, de bondir au volant, de foncer au plus vite dans la nuit. Il se sentait singulièrement énergique et lucide au centre de l'épreuve. Au moment même où son moteur partit, il se glissait à sa place, le nain et le géant apparaissaient au seuil. Dufresne pensa « Si je cale, je suis perdu !» Mais l'instinct le guidait. Il eut un démarrage de professionnel, un de ces démarrages auxquels on tire son chapeau. Et vite, hors d'atteinte, filant sur la route familière, dans le calme nocturne, Dufresne goûtait la joie de résurrection du péril évité en même temps que la volupté malicieuse, imprévue, sans doute inédite, d'emporter à Paris, aux grandes allures, tout le butin précieux volé dans sa maison.